Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne 91.3. Aujourd'hui, pour la rubrique des jeunes reporters européens, vous pouvez nous retrouver du coup de 12h30 à 13h, en rediffusion de 18h30 à 19h ou même en podcast sur le site de eauderadio.fr. Aujourd'hui, encore une fois, du monde autour de la table et ça fait toujours plaisir. Est-ce que ça va bien ?
Ça va très bien.
Impeccable. Bon, alors, on va passer tout de suite au sommaire de notre émission. On commencera par Yannick qui va nous parler musique, métal même, mais sans tous ces clichés. Emeline ensuite qui va nous faire une petite rétrospective de l'événement qui s'est passé hier à la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine pour la soirée roumaine. Et ensuite, on aura la chance et l'occasion de débattre sur le support d'interview qu'ont réalisé Yann et Emeline et Philippe, où on a eu la chance d'avoir Monsieur l'ex-président de la République, François Hollande, et le journaliste très connu, Bernard Guetta. On enchaînera tout de suite après par Richard, une chronique culturelle qui sera dédiée aux arts et créatives, si je ne me trompe pas.
Exact.
Et Guillaume pour l'actu européenne.
Exact.
On commence tout de suite avec Yannick.
Oui, vous êtes toujours sur O2 Radio, dans l'émission des jeunes reporters européens. Ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur de ce bruit que vous entendez. C'est de la musique. À l'écoute cette semaine, je vous présente du métal suédois. Le groupe s'appelle Amon Amarth, ce qui signifie la montagne du destin. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne sont pas des fans de métal. Mais je voulais quand même vous parler de ces 5 Suédois pour leur texte. Bien sûr, ils sont difficiles à comprendre à cause du chant assez particulier. Mais ils racontent des histoires de la mythologie nordique et des vikings. Ils parlent de Thor, Odin, le Ragnarök, Asgard et beaucoup, beaucoup de batailles. Avec ce groupe, j'ai découvert qu'on peut très bien apprendre beaucoup de choses en écoutant de la musique. Et j'espère que certains d'entre vous vont apprécier comme moi.
Merci beaucoup Yannick. Emeline, tu voulais nous parler d'une soirée qui s'est passée hier, qui était très sympa d'ailleurs.
Exactement, et c'est pour ça que je vous dis Bună ziua aujourd'hui, c'est-à-dire bonjour en roumain, puisqu'hier soir on a assisté à la soirée de découverte de la Roumanie, qui était organisée à la MEBA par Alex et Cosmin, nos deux amis roumains qui sont en service volontaire européen. Ils nous ont bien gâtés puisqu'on a eu le droit de déguster des spécialités. On a eu un petit voyage virtuel au cœur des montagnes, des lacs et du bord de mer Noire de la Roumanie. Et on a eu l'occasion, bien sûr, de découvrir des traditions de leur pays. Pour continuer notre petit récap des soirées de la MEBA, ce mercredi 6 décembre, on accueillera son Excellence Aller Streiman, ambassadeur d'Estonie en France, pour échanger sur la question « Quelle priorité pour la présidence estonienne de l'Union européenne ?» puisque le pays est à la tête pensante et tournante du Conseil de l'UE pour une période de 6 mois. Et vous êtes bien sûr les bienvenus.
Impeccable, merci Emeline pour ce récap. Et on passe tout de suite avec Yann et les interviews que tu as réalisées.
Oui, donc on a assisté ce week-end, jeudi, vendredi et samedi, aux tribunes de la presse à Bordeaux. C'était c'est la 7e fois que cet événement se produisait. Emeline, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors en fait, les tribunes de la presse, donc comme tu viens de le dire, ça fait 7 ans que c'est organisé. C'est une initiative de la région à la base. C'est 3 jours de conférences, d'ateliers, de débats sur Bordeaux pour échanger sur la géopolitique, pour écouter des spécialistes sur différents thèmes. Et donc il y a des partenariats avec Sciences Po, avec l'Institut de journalisme. Alors moi je suis allée voir par exemple une conférence sur « L'Europe est-elle un peu trop vite enterrée ?» ou sur les fake news en Russie. Je ne sais pas ce que tu es allée voir toi Yann.
Moi j'ai vu une conférence sur les réseaux sociaux et le rapport entre réseaux sociaux et le terrorisme et la conférence de François Hollande. Alors ce qui était intéressant quand même dans cet événement, c'est qu'il y a beaucoup d'invités, des invités très variés, des experts dans chaque domaine, des politiques, donc des personnes qui sont en responsabilité. Donc il y a quand même, les débats sont assez intéressants, il y a un échange avec la salle. Moi, ça m'a plutôt plu, et la conférence de François Hollande en particulier, qui s'est déroulée dans une atmosphère, une ambiance assez, assez conviviale, avec pas mal de rires.
Je suis vraiment très frustré de ne pas parler. Parce que je prends quand même un ton sérieux et je sens l'humeur d'Anine. Donc, sur une question planétaire où je dis voilà, la survie de l'espèce humaine est en jeu, je relève les sourires.
Alors oui, ce qui aidait les sourires dont François Hollande parle, c'est que derrière lui, il y avait un écran géant avec des dessins qui étaient projetés en direct d'humoristes qui étaient sur la scène avec lui, de dessinateurs, et qui projetaient des caricatures. Et donc c'est vrai que quand François Hollande parle de grosses difficultés internationales et que derrière, il y a un petit dessin qui sort sur Sarkozy ou sur lui et Trierweiler, ben, ça fait rire toute la salle. Et lui, il ne voit pas ce qu'il y a derrière lui. Donc voilà, ça a un petit peu aidé, je trouve, au partage, à la
et en plus, François Hollande, il a toujours été super réputé pour être un personnage politique très drôle.
Pour la petite blague, ouais. Vous savez qu'il était assez à l'aise, moi je trouve, sur ce terrain-là.
Il n'y avait pas de gros enjeux, en plus, il était très détendu, en fait. Donc,
Oui, je pense que. Ouais. Alors on va écouter un premier extrait, parce qu'on a pu faire deux choses. On a enregistré des extraits de la conférence et on a pu l'interviewer après, et on a pu aussi interviewer Bernard Guetta, le journaliste. Donc on va écouter tout de suite François Hollande, un petit extrait sur le rapport entre Europe, Brexit et Trump.
Il y a parfois des mauvaises nouvelles qui peuvent être des opportunités. Mauvaise nouvelle, le Brexit, parce que nous pensions que le Royaume-Uni, qui avait mis du temps à venir dans l'Union européenne, il resterait autant de temps que nécessaire. Et que nous n'aurions pas à vivre le départ d'un pays, et pas n'importe lequel, de l'Union européenne. Mauvaise nouvelle, l'élection de Donald Trump, parce que nous avions déjà vu combien cette personnalité pouvait créer de l'instabilité. Il avait eu, quand il était candidat, des déclarations sur l'OTAN et son avenir. Les deux faits majeurs de ce contexte international et européen sont en fait une opportunité pour l'Europe tout entière, si elle en prend conscience. Et je crois qu'elle en prend conscience. D'abord, il y avait des pays en Europe qui pensaient qu'il était inutile d'avoir une défense européenne, puisque de toute manière, les États-Unis seraient toujours là pour assurer leur propre sécurité. Et que s'il y avait des menaces, n'ont pas disparu, à l'Est, au Sud, il y aurait toujours les États-Unis. Et voilà que ces pays découvrent que cette solidarité qu'on appelle transatlantique, que ce lien entre l'Europe et les États-Unis n'est pas aussi sûr, aussi mécanique, aussi automatique qu'on l'avait ou qu'ils l'avaient imaginé. Deuxièmement, il y a des pays qui pensaient que le Royaume-Uni, qui, je rappelle, est un pays qui détient l'arme nucléaire, est un pays qui consacre beaucoup de dépenses pour sa défense, après autant que nous, voire un peu plus, que là aussi, c'était une forme de protection supplémentaire. Et voilà que le Royaume-Uni se met de côté tout en maintenant des accords, notamment bilatéraux, avec la France sur les questions de défense. Alors, maintenant, chacun doit prendre conscience de sa vulnérabilité, mais aussi du rôle de l'Europe, de ce qu'elle avait d'ailleurs eu comme premier projet, parce que la première idée de construction de l'Europe, c'était autour de la défense européenne. Ça n'avait pas prospéré. Et aujourd'hui, ça revient.
Alors, François Hollande, qui voit le Brexit et même l'élection de Trump, donc l'instabilité, comme une chance pour l'Europe. Vous en pensez quoi, vous, à notre humble niveau ?
Moi, je voudrais dire que je suis, sur ce point-là, complètement d'accord avec le président Hollande, parce qu'il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni, c'est quand même, depuis qu'ils sont membres de l'Union européenne, Margaret Thatcher qui dit « I want my money back ». Ils ont quand même toujours été favorables à une Europe à la carte, principalement sur les échanges économiques et tout. Donc, je rejoins l'analyse de François Hollande, qui n'était pas seul pour le coup, car Michel Rocard, au moment des dernières années de sa vie, a aussi déclaré amis anglais, quittez l'Union européenne mais ne la faites pas mourir. Donc je pense que le Brexit peut paradoxalement être une très bonne nouvelle pour l'Union européenne, car je considère que ce pays a toujours tiré l'Union européenne en arrière, en tout cas à pas contribuer à son développement.
Il ne faut pas non plus oublier que le Royaume-Uni, c'est quand même un pays qui a toujours été isolationniste et puis qui aussi avait déjà son propre système avec le Commonwealth et qui n'a jamais vraiment été très intégré dans l'Union européenne. Pas mal de gens, lorsqu'ils ont pensé l'Europe, notamment au début, pensaient à faire l'Europe sans le Royaume-Uni. Il n'y a qu'à voir le général de Gaulle qui ne voulait pas que l'Angleterre rentre dans l'Europe.
Mais on est un peu dans une vision assez classique aussi de l'Europe, c'est-à-dire qu'il envisage une Europe qui se recentre sur le couple franco-allemand, puisqu'il n'y a plus les Anglais, puisque l'alliance transatlantique n'est plus aussi certaine que, comme il le dit. Est-ce que l'Europe est vraiment, c'est vraiment une Europe moderne, ça?
Bah, pour le coup, moi ça fait totalement écho à une autre conférence que je suis allée voir sur la mort de l'Europe, en gros, c'était ça le thème. Et donc il y avait Enrico Letta qui était présent et qui a dit que s'il y avait eu une mort de l'Europe, en fait elle était accompagnée d'une résurrection et ça s'était bien produit l'an dernier avec le Brexit, parce qu'en fait ça montre à tous que le Royaume-Uni pour l'instant se porte pas si bien que ça, de son point de vue en tout cas, et qu'en fait, comme Brexit il y a eu, il n'y aura pas forcément un Polxit ou un Grexit ou quoi que ce soit, parce qu'on se rend compte aussi de la force que c'est d'être dans l'Union européenne.
Et qu'est-ce qu'en pense notre Allemand autour de la table, du rapport?
Un petit témoignage, oui. Du coup, de mon point de vue étant aussi assez informé par tout ce qui est l'Allemagne, bien sûr que le couple franco-allemand était toujours une grande partie de l'Europe et aussi de l'Union européenne de toujours, et les deux pays principaux. Et je crois, oui, se recentrer sur ça, ça va arriver, surtout avec beaucoup de pays qui sont en ce moment dans une situation économique pas très favorable, par exemple de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal, de l'Italie aussi, d'autres grands pays à côté de la France et de l'Allemagne. Alors je crois vraiment que là, il va y avoir beaucoup de travail sur ça, de vraiment renforcer ces liens et de rester ensemble pour avoir au futur, pour revenir plus fort de ce Brexit.
C'est une place centrale que, là en tout cas pour François Hollande, la France a envie de récupérer. On va écouter un petit extrait de l'interview de François Hollande justement à propos d'Obama et de Trump.
Nous avons agi ensemble, en tout cas pendant les 5 années où j'ai été à la tête de notre pays, et il m'a paru à la fois amical et utile de pouvoir échanger, y compris sur ce que nous avons pu faire ensemble, ce que nous n'avons pas pu réaliser, mais aussi sur ces fondations qui peuvent, sur la notion d'engagement, nous unir. Moi, je pense que ce que nous avons fait avec Obama pendant toutes ces années a été utile au monde. Nous n'avons pas forcément été en accord sur tout, mais nous l'avons été sur l'essentiel. Aujourd'hui, c'est plus difficile, convenons-en. Mais je ne suis plus en responsabilité, donc c'est pas à moi de faire là-dessus des commentaires qui pourraient être mal compris. Mais c'est vrai que la présidence Trump crée une instabilité, une incertitude qui pèse.
Ça vous pèse, Trump?
Oh, je ne sais pas si ça nous pèse vraiment plus que ça ne nous effraie, puisque pour l'instant, moi, je n'ai pas concrètement dans notre vie quotidienne ressenti les effets l'élection, pardon. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir les choses du point de vue international et de se dire, mince, mais comment on va s'en sortir avec un tel bonhomme? Et c'est plus comme ça que je le vois par rapport à des institutions, des concepts de protection de l'environnement, mettons, mais c'est encore d'autres sujets qui sont particulièrement préoccupants. Donc, il ne me pèse pas, mais il m'effraie. J'espère qu'il ne me pèsera jamais, disons. Mmh.
C'est un peu ça. En fait, c'est évident que le ton a radicalement changé. Moi, je me rappelle de Barack Obama qui qualifiait la France de meilleur allié des États-Unis. Là, Donald Trump, ses relations avec l'Europe, c'est une série de tweets où il dit un peu La Suède a une politique migratoire désastreuse, la France ne sait pas gérer les attentats. Enfin, il parle plus à ses électeurs quand il parle de l'Europe que de l'Europe en tant que telle, ce qui refroidit vraiment les relations. Et je pense, un peu dans le même état d'esprit que le Brexit, que ça aussi, paradoxalement, ça peut renforcer l'Union européenne, parce qu'on comprend que les États-Unis, bah, ils sont plus trop fiables, ils peuvent plus remplir leur rôle de gendarme du monde, et c'est à l'Europe de prendre le relais, de se développer davantage.
Et alors Trump, c'est aussi la montée du nationalisme, et on va écouter à ce propos l'interview de Bernard Guetta, journaliste spécialiste en géopolitique. On l'a interrogé justement sur la montée du nationalisme en Europe, et plus particulièrement sur l'exemple polonais.
Parti Droit et Justice en Pologne a certes remporté une majorité et gouverne, mais n'oublions pas qu'il n'avait qu'à peine 39% des voix aux dernières élections, ce qui signifie qu'il y a 60% des Polonais qui ne sont pas sur cette ligne-là. Bon. Aux prochaines élections, d'après les sondages, ils oscilleraient entre 38 et 42%, c'est-à-dire grosso modo, un peu plus, un peu moins, ou la même chose, la même chose. Bon, donc la situation de ce point de vue n'est pas particulièrement dramatique en Pologne. Elle est préoccupante, elle est extrêmement préoccupante, parce que la majorité actuelle s'attaque réellement à l'état de droit. À travers les réformes qu'ils veulent introduire dans le système judiciaire et dans le fonctionnement des élections et dans l'organisation des élections, ce qui devient de plus en plus grave. Néanmoins, comme M. Trump, M. Kaczynski n'est pas éternel. Il aura un successeur et on peut imaginer aisément que le successeur en question sera plus démocrate et plus pro-européen.
D'accord. Donc ça empêcherait d'avoir l'équivalent du Brexit avec la Pologne, par exemple.
Alors là, écoutez, complètement, même si M. Kaczynski est réélu, qu'on ne peut pas du tout exclure aux prochaines élections polonaises, aucun dirigeant polonais ne peut se permettre d'envisager une sortie de la Pologne de l'Union européenne pour la simple raison que l'économie polonaise reste beaucoup trop dépendante des subventions européennes et du marché européen et de la libre circulation. Et de la libre circulation.
Et puis c'est son ouverture aussi par rapport à la Russie, c'est... C'est-à-dire que, est-ce que la Pologne se débarrasserait de l'Europe historiquement? Je crois pas que...
Vous voulez dire par là que ça l'affaiblirait vis-à-vis de la Russie?
Oui.
Ça l'affaiblirait vis-à-vis de la Russie. Vous avez certainement raison, mais c'est très très paradoxal. Mais le PiS aime beaucoup M. Poutine.
Alors, je propose d'écouter tout de suite d'enchaîner avec le ce que dit Hollande sur le... Il y a une réponse beaucoup plus optimiste sur le nationalisme.
Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que la montée des nationalismes en Europe met en péril le futur de l'Europe?
Oui, c'est un risque. C'est un risque, mais je pense que l'Europe a des atouts aujourd'hui pour réduire le nationalisme et le repli. Je pense que l'Europe, dans cette période-là, peut montrer qu'elle est un espace de protection et que l'ouverture n'est pas contradictoire avec la prospérité, au contraire. Merci.
Alors, nationalisme d'Angers, est-ce que... C'est à relativiser. Comment est-ce que vous le ressentez aussi de...
Pour le cas de la Pologne, par exemple, on a eu la manifestation du 11 novembre qui a été très relayée, qui a fait un buzz énorme cette année. Alors que c'est un... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du coup, avec les manifestations nationalistes dans la rue, etc.
Mm-hmm. Vous avez vu un peu ça? Oui, c'était suite à des mesures du gouvernement, si je ne dis pas de bêtises.
Non, en fait, c'est parce que c'est aussi un jour de manifestation nationale et que... Du coup, tout le monde est dans la rue ce jour-là, sauf qu'en fait, ça fait des années que on met en garde sur les violences, que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui aujourd'hui est très très fort. Et ce que je voulais dire, c'est que pour le coup, il y a cette partie-là de la population qui est dans la rue, mais il y a aussi toute la partie de la population qui est aussi sincèrement europhile et qui, comme était dit dans l'extrait. N'a pas cette envie-là parce que de toute manière serait affaibli en quittant l'UE et il le sait.
Oui, je ne suis pas sûr que la Pologne puisse quitter un jour, je ne suis pas sûr qu'elle ait la même solidité que le Royaume-Uni pour pouvoir se rendre
Et en plus que le Royaume-Uni en prend un sacré coup, mine de rien, en quittant l'Europe, d'autant
oui,
plus.
Donc en plus, il faut, et la Pologne, elle est entre l'Europe et la Russie, et elle le sera toujours. Donc,
oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on ne disait pas un peu la même chose du Royaume-Uni à l'époque où on leur disait que c'était impossible qu'ils quittent l'Union Européenne, et pourtant ils l'ont fait. C'est justement ça qui est assez surprenant avec les mouvements nationalistes, ils font des actions qui sont, qui nous paraissent pas logiques.
Ah oui, complètement, je pense qu'on est à l'abri de rien, en fait. Je pense que personne n'est...
Oui, c'est sûr. Oui. Mais... Et dans le côté à l'abri de rien, c'est vrai que ça se manifeste partout. Je regarde un petit peu Yannick en Allemagne. Le parti d'extrême droite, s'il me semble, l'AFD, contraint par l'Alternative pour l'Allemagne, est arrivé troisième lors des élections, derrière la CDU et le SPD, mais devant les libéraux, les Verts et Die Linke, la gauche radicale. Donc ouais. Voilà, ça se manifeste partout.
Yannick ?
Oui, pour ce coup-là, oui, comme tout le monde l'a déjà entendu dire, oui, l'Allemagne a un problème de radicale droite encore. Et même dans le Parlement maintenant, dans le Bundestag, on en a beaucoup trop. Ils ont 96 sièges. Et ils font un peu le bazar en ce moment. Et oui, on va voir où ça va aller dans les prochaines années.
On écoute juste un extrait très rapide de François Hollande sur le problème européen, le problème de transparence.
Et ce qui a été reproché à l'Europe, et là je pense pour de bonnes raisons, c'est le manque de transparence. Et chaque fois qu'il y a une forme d'opacité ou un défaut d'information, il y a toutes les contestations qui peuvent se nourrir et parfois les mauvaises informations qui peuvent circuler.
Le problème de l'Europe pour François Hollande, c'est notamment la transparence, le manque de transparence. Et ce qui est important pour l'Europe aussi, c'est finalement de parler d'Europe. C'est pour ça qu'on est tous là.
Ouais, c'est bien pour ça qu'on est là, justement. C'est pour essayer de rendre cette Europe un peu plus, plus claire, éviter, même dans la compréhension quotidienne. Et, c'est que l'Europe, c'est une entité gigantesque dont nous faisons partie. Et on n'y comprend pas souvent grand-chose. Et en plus, parfois même, on ne s'y intéresse pas. Comme l'atteste le taux de vote des élections européennes. C'est ça qui est assez dingue. Et c'est pour ça que cette émission aussi existe. C'est pour essayer de clarifier un peu tout ça. En allant même plus loin que la transparence, disons, de l'institution pour les journalistes, pour les médias, pour les experts, en termes de droit. Nous-mêmes, savoir comment l'Europe fonctionne concrètement, c'est déjà un morceau.
L'engagement européen, Claire,
Bien sûr que c'est important. Mais je pense que c'est important parce que... Ouais, en France, je pense que c'est important qu'on ait un pays fondateur de l'Europe. Et vraiment, quand on est français, on se sent européen. Et du coup, c'était important pour moi de faire partie de ce service civique et aussi de cette émission.
Et au-delà de l'émission, juste pour reparler de quelque chose de concret qu'on fait, dans notre mission de service civique ou de volontaire européen, on a des interventions à faire dans des établissements scolaires et dans des associations. Et en fait, c'est vachement intéressant d'aller voir des jeunes ou même des tout petits qui ont une très vague notion de ce que c'est l'Europe ou l'Union européenne et de pouvoir en fait concrètement montrer que ça passe vraiment par l'éducation et que c'est super important de commencer par... clairement familiariser les jeunes et les enfants à ce que c'est que les valeurs européennes. C'est pas très grave s'ils comprennent pas ce que c'est la Commission, en fait c'est pas ça l'important, mais au moins de comprendre qu'en fait il y a un socle de valeurs qui nous rassemble et que ça faut vraiment sensibiliser les gens à ça.
Et qu'il y a peut-être autre chose justement, une autre possibilité assez nationalisme, assez radicalité.
Il y a cette unité en fait que nous on essaie de représenter à l'échelle de l'Europe, mais... oui, les nationalismes, souvent on dit que ça va être la solution du repli. Et faisons autrement. On voit, de nombreux exemples montrent que c'est pas viable comme système. Donc, prenons exemple sur le passé. Enfin, très bêtement, regardons les accès au pouvoir des nationalistes. La réponse est finalement assez bête comme ça, mais...
Point Godwin attend 27 minutes.
Exactement.
Le plus important, finalement, c'est peut-être d'en débattre et d'échanger tous autour de ces sujets. On termine l'émission par quelque chose de plus léger.
Exactement. On va terminer l'émission avec Richard qui voulait nous parler des Artes Créatives.
Non, de la rubrique Artes Créatives. Donc du coup, bonjour à tous. Il n'en reste plus que 3 minutes. Et vous l'aurez remarqué aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisqu'on a eu la chance d'avoir une intervention d'une personne s'y connaissant mieux mieux en radio que nous. D'ailleurs, je vous cache pas que Bernard Guetta a longtemps été considéré pour remplacer Guillaume pour sa chronique d'actualité. Mais on attend toujours sa réponse et on doit continuer avec le chroniqueur que l'on a. Et circonstance exceptionnelle, la chronique culture que je fais d'habitude va être un peu plus courte puisque je vais vous parler d'un truc général aujourd'hui et non pas d'un truc spécifique comme une série ou un artiste. Et aujourd'hui, on va parler amitié franco-allemande. Et pas seulement parce que Yannick est là avec nous, mais aussi puisque c'est un sujet que j'aime bien à titre personnel. Il s'agit de la chaîne Arte. Alors si jamais je fais un tour de table ici, j'imagine que tout le monde aime bien Arte dans cette pièce.
Absolument, mm-hmm. Oui.
Quand même.
Ah, c'est oui. Bien ce que je pensais. Vous êtes vraiment le genre de personne qui aime bien se vanter en soirée, du genre ah, moi je regarde Arte, je suis plus intelligent que ceux qui regardent Hanouna.
Complètement.
Un véritable bobo quoi. Bon, rassurez-vous, j'en suis un moi-même et je suis tellement aujourd'hui que je vais vous parler d'Arte Créative. Alors d'Assist Arte Créative, il s'agit en fait d'une partie de la chaîne franco-allemande existant principalement sur le net depuis 2011 et permettant la création de contenus originaux, à l'inverse de cette chronique qui se base sur un autre de mes interventions dans une radio locale différente, Radio Campus. Mais que voulez-vous, hein, je l'ai dit, je suis un bobo, je suis donc un adepte du recyclage. Pour revenir à Arte Créative, ce service franco-allemand produit une immense variété d'émissions dont les formats ou les thèmes ne sont pas spécialement adaptés à la télévision. On parle par exemple de toutes petites vidéos de 5 à 10 minutes au sujet des plus variés, des vidéos qui ne sont pas seulement diffusées sur le site internet d'Arte, mais également sur d'autres formats comme Facebook ou YouTube. Des émissions très variées avec par exemple des documentaires qu'on pourrait qualifier de spontanés, avec par exemple 6 épisodes et c'est tout, brassant des sujets larges comme féminisme et jeux vidéo, et plus récemment une série documentaire appelée Tous Zombies qui revient sur la mode des morts vivants dans la pop culture. Et en parlant de pop culture, il faut aussi noter des émissions qui sont plus régulières, comme Beats, qui décortique et recolle les morceaux de la pop culture chaque semaine, qui a dépassé les 100 épisodes et que vous pouvez retrouver sur YouTube. En autre émission récurrente, je pourrais également vous parler de Trax, qui parle de musique, un peu comme David, mais avec beaucoup moins de poésie, avec des sujets tout à fait intéressants et un point de vue original. Par exemple, vous pouvez trouver une émission sur le rap du troisième degré, c'est-à-dire celui de Vald ou de Lorenzo. Vous pouvez par exemple trouver une interview de Lorenzo où à la question « Qu'est-ce que c'est que faire du sale ?», il répond simplement en prenant un clavier et en l'éclatant sur la table. Pour finir, je peux également vous parler des fictions qu'ils font, comme par exemple Loulou, qui est une série très sympa, en 10 épisodes de 5 à 6 minutes, racontant la grossesse d'une trentenaire avec un humour à la fois tendre et très efficace. Enfin bref, vous l'aurez compris autour de cette table, et également vous, chers auditeurs, Arte Créative est un nid à nouvelles créations originales, et toujours très agréable, de voir un médium comme le groupe Arte investir dans des productions atypiques, comme elle le faisait déjà à la télévision en adoptant par exemple le blog « Tu mourras moins bête » de Marion Montaigne. N'hésitez donc pas à y jeter un œil sur tout et n'importe quoi sur ce site. Vous pourrez trouver des trucs aussi originaux que la scène néo-punk berlinoise des années 70 et vous pourrez bien être captivé par l'originalité du contenu.
Merci beaucoup Richard. On passe très très rapidement avec Guillaume et notre agenda européen.
Oui, tout à fait. Alors actuellement, c'est enfin très bientôt, sur 3 soirs du 7 au 10 décembre, c'est la fête des Lumières à Lyon. Petit agenda franco-français pour changer un peu. C'est peu dire que cet événement est magique. La ville est envahie d'installations lumineuses gigantesques et de projections de lumière sur les bâtiments, et tout cela nous transporte littéralement dans un autre univers. En outre, chaque Lyonnais est cordialement invité à déposer une bougie appelée Lumignon à sa fenêtre. De cette manière, cette ville lumière justifie de façon spectaculaire son appellation. C'est à voir, je pense, au moins une fois dans sa vie.
Impeccable. Alors, on termine très rapidement cette émission. On vous rappelle que l'émission prochaine des jeunes reporters européens sera consacrée à Noël. Il sera histoire de contes, de traditions, de chants et tout ce qui...
Ah, on aurait dû prendre des couchettes.
Un petit peu... et voilà, donc je remercie tous les journalistes autour de la table, évidemment nos régisseurs. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne, 91.3.